Depuis le début de l'année, donc, on a développé sur le thème de l'écoute, alors des prédications. On a vu l'importance d'écouter le Saint-Esprit nous parler, comment qu'il veut nous montrer sa volonté, comment qu'à travers la parole de Dieu, à travers différentes façons, il veut exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il est pour nous, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions voir ce que le Seigneur veut nous dire. Nous avons vu aussi l'importance justement, de, suite à l'écoute, d'obéir. Parce que c'est vrai que c'est bon d'écouter Dieu, d'écouter le Saint-Esprit, mais après il faut obéir à ce qu'il nous demande. Il faut mettre en action ce qu'il nous demande de faire. Et depuis la dernière fois, nous avons commencé à parler sur l'Église, la valeur de l'Église, de l'importance que prend l'Église dans notre être, dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que le Seigneur désire faire à travers l'Église? Qu'on puisse expérimenter vraiment le pardon, le salut, la grâce et la bonté de notre Seigneur au sein de l'Église. J'espère et j'encourage chacun à avoir ce renouvellement de nos pensées sur la place de l'Église. Comme vous savez, depuis un certain nombre de temps, je suis en mentorat avec un ministère, renouvellement de l'Église, et je suis béni, je suis encouragé de voir qu'ensemble, en tant que pasteur de différents pays, on peut se rassembler, on peut étudier la parole, on peut regarder comment on peut être renouvelé. On a tous besoin, même si ça fait 15, 20 ans, 30 ans qu'on est dans le ministère ou qu'on est avec le Seigneur, on a besoin toujours d'être complètement renouvelé dans notre être jour après jour. Car nous savons qu'en ce temps, l'Église, le corps du Christ est beaucoup bouleversé, ébranlé. À travers tout ce qu'on entend jour après jour, on voit que les persécutions des chrétiens, on voit comment que dans beaucoup de pays, peut-être même occidentaux, là, il y a un refroidissement de la foi, il y a des gens qui quittent les églises de plus en plus. J'ai entendu encore cette semaine, hier, encore je disais un reportage chrétien qui disait que s'il n'y avait pas de changement en Allemagne avec l'église protestante et l'église catholique réformée, là, je veux dire l'église traditionnelle, en 2050, il n'y aura plus d'église. Il n'y aura plus d'église. Et ça a été le fer de lance, l'église protestante, l'église catholique, il y a plusieurs siècles, pour amener la foi en Allemagne. Mais on voit que les gens se détournent du Seigneur pour différentes raisons. Et ce matin, on va voir les bienfaits de l'église locale. Oui, on fait partie de l'église universelle, le corps du Christ, mais on va voir maintenant que Dieu nous a placés dans une église pour voir quels sont ses bienfaits. Quels sont les points qui nous démontrent l'importance de l'Église locale? Pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ a préparé ses disciples à instituer l'Église? Et quels sont les avantages à participer justement à l'Église locale? Donc chaque point que nous allons énumérer, il y a des textes bibliques, parce qu'on veut voir à travers la parole de Dieu que c'est la vérité, comment que ces points sont justement mis aussi avec la parole de Dieu. Donc on vous encourage de les écrire afin de continuer de méditer durant la semaine. Le premier point, c'est être protégé contre la tromperie. Protégé contre la tromperie. On voit qu'on a besoin. On a besoin vraiment de voir que le Seigneur veut nous encourager par rapport à ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous sommes seuls devant une situation, c'est difficile justement d'avoir vraiment la possibilité de vaincre l'ennemi. De comment on doit faire les choses. C'est normal parce que lorsque nous sommes seuls, on voit juste une façon de voir les choses. On n'a pas les autres autour de nous qui peuvent nous aider à voir la situation peut-être autrement. Mais que nous savons aussi qu'il y a quelqu'un, l'ennemi Satan, qui déforme la vérité afin que nous ne puissions pas en comprendre, afin que nous ne puissions pas saisir pour avancer sur le chemin du Seigneur. Il essaie de nous montrer peut-être juste un aspect d'une chose afin qu'on tombe, comme on pourrait dire, dans le panneau et que nous ne soyons plus dans la vérité. Regardez, 1 Timothée chapitre 3, verset 14-15, qui dit « J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que si ma venue devrait être retardée, tu saches en attendant combien on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Donc, l'une des fonctions clés de l'Église est d'être un pilier et un contrefort de la vérité. Dans l'Église, nous proclamons justement la vérité de Dieu à travers sa parole. Nos frères et nos sœurs sont là justement à nos côtés pour nous aider justement à avoir une autre façon de voir les choses. lorsque l'ennemi vient essayer de nous tromper. Mais lorsque vous êtes seul ou loin de l'Église, vous n'avez plus ce rempart qui est là pour vous aider à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Sans l'Église, vous êtes seul et vous êtes une proie facile pour la tromperie. Le pasteur Ray du ministère Renouvellement de l'Église dit, écoutez bien ce qu'il dit, beaucoup de chrétiens individualistes pensent qu'ils ne sont pas trompés. Mais voici le problème. Vous ne savez pas quand vous êtes trompé. Si vous saviez que vous êtes trompé, vous ne seriez pas trompé. Ce qui signifie d'être, c'est cela que ça signifie d'être trompé. L'ennemi va tranquillement nous apporter des choses sans qu'on se rende compte. Et à un petit moment, un certain temps après, on voit qu'on est loin de l'Église, on est loin de la vérité. L'ennemi sait très bien. C'est très bien discerné selon nos caractères, nos tempéraments, nos façons de vivre, de quelle façon il peut nous tromper pour nous éloigner de l'Église, pour nous éloigner de la vérité de Dieu. La sécurité contre la tromperie et les faux enseignements se trouve dans l'Église, alors que nous sommes joints ensemble, qu'on grandit dans le Seigneur. Un autre point, c'est faire l'expérience de la présence de Dieu. Comme ce matin, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, qu'on soit présentiel, qu'on soit sur Zoom, on vient avec des frères et sœurs et on vient adorer, on vient prier, on vient vivre une communion fraternelle, on ressent l'Esprit de Dieu en nous, on sent que l'Esprit de Dieu est là, on sent qu'on veut l'adorer, le louer de tout notre cœur. L'un des principaux moyens par lequel nous pouvons faire l'expérience de Jésus et de le connaître est l'Église. Même si c'est vrai que l'Église n'est pas parfaite, elle fait encore des erreurs, elle a encore besoin de la grâce de Dieu, mais c'est dans l'Église que le Seigneur agit. C'est vrai que Dieu peut agir avec chacun de ses enfants, où il veut, comme il veut. Mais notre Seigneur aime agir à travers l'Église, qui est son corps. Nous savons que l'Église est le temple ou la maison où Dieu réside maintenant avec nous. Dans l'ancien temps, il y avait le temple à Jérusalem où Dieu résidait et les gens venaient dans le temple pour adorer, pour être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ce temple à travers le Saint-Esprit qui est là, qui vient faire cette unité avec Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Ici, on parle justement de l'Église universelle, le corps de Christ. Chacun de nous, nous sommes une pierre de cet édifice. Mais le Seigneur veut agir dans l'Église locale aussi. Lorsque les personnes se rassemblent sous son regard pour le louer et l'adorer. Regardons justement Éphésiens, chapitre 2, versets 19 et 22. Ouvrons notre Bible dans Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Nous allons voir comment que Paul va parler des Éphésiens pour parler justement de l'Église universelle, mais aussi de l'Église locale. Verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens et membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Ici, il est parlé de l'édifice, il est parlé ici de l'Église universelle. C'est tout le corps du Christ. Donc Paul va dire que nous faisons partie de la famille de Dieu et que Dieu va construire sur cet édifice. Mais plus loin, Paul va dire, vous avez été intégrés ensemble. Ici, il est parlé de l'Église locale. Dans cette construction qui est l'Église universelle, nous avons été intégrés, non pas juste comme un numéro, ou une présence, mais réellement nous faisons partie de cette famille à travers l'Église locale. C'est là que le Seigneur agit, c'est là que le Saint-Esprit se manifeste pour la seule gloire de notre Dieu. C'est lorsque nous sommes rassemblés justement ensemble que nous expérimentons la présence de Dieu d'une manière nouvelle et tangible. C'est pas juste une impression, c'est pas juste une émotion ou une croyance que Dieu est là, qu'il agit, mais réellement nous ressentons, réellement nous voyons Dieu agir. Ensemble, lorsque nous l'adorons, nous ressentons que nous faisons partie de la famille de Dieu et que le Saint-Esprit est là, et que tous ensemble, nous dirigeons nos regards vers notre Seigneur, vers le trône céleste. Matthieu chapitre 18, verset 20, que nous connaissons, Matthieu chapitre 18, verset 20, qui dit « Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » L'une des principales raisons d'être de l'Église et d'être un lieu justement où Dieu peut vivre afin que nous puissions profiter de sa présence. supposons que je veux aménager hors de ma maison, que je voulais tout de même entretenir une relation forte avec ma femme, avec Nicole, mais que je décide d'habiter en dehors de la maison. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce qu'une telle relation va vraiment, à un moment donné, être plus faible? Parce que c'est comme si je suis avec ma femme, mais en même temps, je n'habite pas avec elle. À un moment donné, cette relation va s'effriter, la relation va diminuer. Nous sommes trompés, justement, si nous pensons que nous pouvons nous couper de l'église locale et que ça n'affecte pas notre relation avec Dieu. Un autre point que nous voyons, pour la croissance et la maturité spirituelle, comme on a besoin justement de l'église locale pour expérimenter la présence de Dieu avec nos frères et sœurs, c'est aussi dans l'église locale que nous allons grandir et progresser dans notre cheminement spirituel, dans notre vie quotidienne. Nombreux sont des fois les chrétiens qui pensent qu'ils peuvent être spirituellement complets simplement en écoutant peut-être leur prédicateur préféré sur Internet. Ils n'ont pas besoin de suivre un pasteur local. Et comme on écrit sur le PowerPoint, ce n'est pas seulement votre prédicateur préféré, mais c'est l'ensemble de l'Église qui est nécessaire à la maturité spirituelle. Sans le ministère de toute l'Église, ils ne pourront tout simplement pas grandir. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21 dit: c'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main: je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds: je peux être très bien me passer de vous. Le corps que le Seigneur nous a donné, chacun des membres a de l'importance. Même si certains membres, peut-être qu'on utilise plus souvent, qu'on a plus d'importance, comme les jambes ou les mains, mais ils ne pourront pas fonctionner s'ils n'étaient pas reliés au corps tout entier. Dans l'église locale, justement, le fait de côtoyer, de partager ensemble des temps d'adoration, des moments de prière, d'encouragement, nous permet de grandir dans notre vie chrétienne. Même si des fois ensemble, on peut expérimenter des choses difficiles, on peut expérimenter des désaccords, des tensions, mais tout cela nous permet de grandir l'un envers l'autre, en nous pardonnant, en acceptant de nous aimer au-delà des situations qui peuvent survenir entre nous. Chaque chrétien peut avoir un ou deux ou plusieurs dons spirituels, mais il n'a pas tous les dons spirituels que la parole nous donne. Voilà pourquoi que le corps tout entier est important. Voilà pourquoi qu'on a besoin des frères et sœurs, afin qu'ensemble on puisse mettre tous nos dons ensemble, pour qu'on puisse les expérimenter, qu'on puisse les utiliser pour la gloire de notre Seigneur. Voilà pourquoi que nous avons besoin de nos frères et sœurs. Lorsque l'on se met ensemble, ça crée quelque chose de beaucoup plus grand, de plus fort que lorsqu'on est tout seul. Nous devons être en communion et soumis à d'autres personnes qui ont d'autres dons spirituels afin de pouvoir bénéficier des dons de chacun. Le prochain diable, toujours par rapport aussi à la croissance de maturité spirituelle, le point qui dit: ce n'est pas seulement votre Bible, mais l'ensemble de l'Église qui est nécessaire à la maturité spirituelle. Il y a des fois des personnes qui disent: moi, la Bible me suffit. Je regarde dans la Bible, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin d'autres chrétiens. La Bible me suffit, j'ai tout ce que j'ai besoin dans la Bible. C'est vrai que la parole de Dieu, elle est là pour nous encourager. Elle est là pour pouvoir nous montrer le chemin à suivre. Mais si nous pouvions tout obtenir par nous-mêmes, si simplement en écoutant la Bible, on aurait tout compris, pourquoi que Dieu aurait permis qu'il y ait des enseignants? Pourquoi que Dieu aurait permis qu'il y aurait besoin des pasteurs, des évangélistes? Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, il dit: c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour tous ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Donc dans ces versets, Paul va dire que le Seigneur équipe certaines personnes pour une tâche particulière, donne un don particulier à ces personnes, afin qu'elles puissent aider à la construction du corps du Christ. C'est ça la force de l'Église locale. C'est que chacun de nous, on peut donner quelque chose aux autres, quelque chose qu'on a reçu du Saint-Esprit, et qu'on peut équiper notre frère, notre sœur à côté de nous. Prochain diable, toujours encore aussi dans la croissance et la maturité spirituelle, on entend des fois aussi cette phrase: c'est Jésus-Christ me suffit. Il a dit: ce n'est pas seulement Jésus, mais toute l'Église qui est nécessaire à la maturité spirituelle. Trop de chrétiens, justement, pensent qu'ils peuvent devenir spirituellement complets sans l'Église, simplement en ayant leur propre dévotion. Ils vont prier, ils vont lire la Bible à la maison, juste eux. Trop de chrétiens disent: moi, Jésus, ça me suffit. Je n'ai pas besoin des autres. Oui, c'est vrai que tout cela, on peut le faire à la maison, sans avoir de contact avec d'autres chrétiens. Mais comme on l'a dit auparavant, vous n'avez pas tout reçu les dons qui peuvent nous aider à grandir, à progresser d'une façon juste et complète pour que dans notre vie. Une grande partie de la grâce de Dieu, c'est qu'on la reçoit justement à travers le corps, la relation que nous avons les uns avec les autres, à travers l'Église. Éphésiens, toujours dans Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et 16, les versets un peu plus loin, il est dit, au contraire, en exprimant la vérité de l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Nous pouvons obtenir une partie de la grâce de Dieu. On peut recevoir les bénédictions, on peut recevoir les faveurs de Dieu, on peut recevoir sa présence, sa bonté, directement du Seigneur, c'est vrai. Mais une grande partie de la grâce qui nous est disponible, nous la recevons lorsque nous engageons pleinement notre cœur dans l'Église. Pensez à la grâce que vous avez justement ce matin, à travers l'adoration, à travers la prédication, l'enseignement, à travers le baptême, la prière collective, la sainte cène, la communion fraternelle, les dons spirituels, toutes ces choses que l'Église est. Lorsque vous venez dans l'Église, vous recevez les grâces de Dieu. Vous recevez à travers les dons de chacun pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir aller de l'avant dans notre vie de tous les jours. Même si l'Église locale passe par des moments difficiles, passe par des temps de doute, de questionnement, de changement, c'est aussi à travers ces temps-là que la présence de Dieu se manifeste d'une façon particulière. C'est à travers ces temps que nous progressons et que nous allons de l'avant. Un autre point que nous voyons qui est très important, recevoir plus de réponses à nos prières. Lorsqu'on est seul, c'est vrai que ce n'est pas facile de prier. Si nous sommes toujours seuls à la maison, sans l'église locale, quels sont les sujets de prière que nous allons prier? Nous allons prier peut-être pour tous les besoins généraux, mais on ne va pas prier pour des personnes spécifiques qui ont des besoins spécifiques parce qu'on n'aura pas de contact avec eux. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 11, je lis dans la version Parole de vie qui dit « Vous aussi, vous nous aidez en priant pour nous. Ainsi nous recevons de Dieu des bienfaits grâce aux prières de beaucoup de personnes. » C'est ensemble lorsque nous prions que nous expérimentons ce que veut dire la force de la prière, la force de l'intercession, la puissance de la restauration et de la délivrance qui est donnée par Jésus-Christ. Voilà pourquoi qu'on veut remettre aussi la prière au centre de nos célébrations du dimanche. Voilà pourquoi on veut prendre un temps de prière. Parce que ce n'est pas juste pour quelques sujets, mais tous ensemble, nous croyons que la prière a une efficacité. Nous voyons comment que la prière, tous ensemble en tant qu'Église, a une puissance. Nous permet de voir comment que Dieu va agir. Le pasteur Ray, justement, par rapport au ministère du renouvellement de l'Église, va dire cela. Il dit, certains n'obtiennent pas la réponse à leur principale requête de prière parce qu'ils ne participent pas activement au ministère de l'Église, comme les petits groupes, ou parce qu'ils ne participent pas aux réunions de prière collective, ou parce qu'ils ne demandent pas de prière supplémentaire au ministère de la prière. Peut-être que vous trouvez ça un peu dur, la façon comment ils voient la chose, mais c'est la réalité. Le Seigneur désire que nous puissions prier ensemble en tant qu'Église, et il va répondre à ses besoins, parce que c'est la volonté de Dieu que nous rassemblons ensemble. Qu'ensemble nous prions, qu'ensemble nous recherchons la présence de Dieu, qu'ensemble nous puissions écouter Dieu pour que nous puissions aller de l'avant. Alors oui, la prière communautaire, la prière ensemble a une grande efficacité. Comme notre frère l'a dit, sans la prière, l'Église est morte. Et voilà pourquoi qu'on veut continuer de prier. Voilà pourquoi que le mouvement méthodiste a commencé à avoir plus de rencontres de prière, comme il le dit à tous les jours aujourd'hui, de midi à midi 30, pour le moment c'est en anglais, mais on est en train de voir pour pouvoir nous participer aussi avec une traduction en français. Pendant une demi-heure, des chrétiens de différents horizons, de différents lieux à travers le Canada se rassemblent pour prier ensemble, pour demander que la faveur de Dieu soit sur l'Église. Pas juste sur l'Église méthodiste, mais sur l'ensemble de l'Église, afin qu'on puisse continuer de propager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si le Seigneur a désiré que nous puissions nous assembler en tant qu'Église locale, il veut agir à travers l'Église locale. Et il va nous encourager, nous bénir toutes les initiatives qui se développent au sein de l'Église locale. et c'est son corps réunis tous ensemble. Je vois, je parle avec différents pasteurs de différents milieux, il y a même des églises aujourd'hui qui font la prière 24-7, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, il y a des gens qui prient pour l'église, pour le corps du Christ, pour le Québec. Même aussi, on a lu aussi pour ceux qui étaient là à la prière aussi le mercredi soir, que justement l'importance aussi d'avoir la prière, même durant le culte, durant la célébration, pour continuer d'apporter les gens, pour apporter le culte, la célébration devant le trône céleste. Le prochain point qui est aussi important, nous garder fervents. Nous garder fervents. C'est difficile en tant que chrétien, en tant que personne, d'être toujours bien éveillé, de toujours être en forme, de toujours, comment on pourrait dire, péter le feu, on pourrait dire, comment on pourrait toujours être dans la joie, plein de force, etc. Des fois, on vit aussi des découragements, des fois, on vit aussi des temps d'assitude, des temps de doute, des questionnements, de fatigue. Et justement, nos frères et sœurs dans l'Église peuvent nous encourager par leur témoignage, par leur expérience de vie, et ça nous permet d'avancer. Le Seigneur permet qu'on ne soit pas tous découragés en même temps. Même dans un couple, peut-être quelqu'un vit une chose difficile, l'autre personne du couple peut aider. Dans la famille, c'est la même chose. Dans la famille du Seigneur, on est tous à des niveaux différents, mais on peut tous s'encourager pour continuer à grandir, progresser avec le Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 24-25. Hébreux chapitre 10, verset 24-25. Il est dit, « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Chacun de nous, comme on l'a dit, passe par des moments difficiles, plus décourageants. Et voilà pourquoi on a besoin dans ces temps d'avoir l'aide, le support de nos amis de l'Église qui vont nous aider à surmonter ces temps. Comme on l'a dit, l'ennemi continue de faire de son travail de découragement. Il est là pour voler, pour tuer, pour détruire l'Église, pour voler, tuer, détruire cette ferveur du Seigneur en nous. Il apporte par toutes sortes de façons le découragement, la déception. Et voilà pourquoi que souvent, malheureusement, beaucoup de chrétiens délaissent l'Église. Et on ressent encore de plus en plus comment que l'ennemi travaille fort, parce qu'il sait qu'il reste peu de temps. Même si ce texte est écrit il y a plus de 2000 ans, les disciples avaient longtemps, ils avaient compris que oui, le temps était limité. Et que comment que l'ennemi continue de s'acharner, le temps qui lui est donné. Et voilà pourquoi on a besoin encore de plus de résister. Voilà pourquoi on a encore besoin de plus de s'accrocher les uns les autres pour rester fervent, afin qu'on ne puisse pas se laisser distraire par l'ennemi. On sait que, d'une part, Jésus, donc le chef de l'Église, nous dit qu'on peut lui apporter nos fardeaux. On le voit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 30, il dit, si vous avez beaucoup de fardeaux, déposez. Je vais vous apporter un doux et léger fardeau. Venez vous reposer en moi. Il veut nous soulager parce que des fois nos fardeaux sont trop lourds à porter. Mais d'autre part, il est dit de porter les fardeaux les uns les autres. On peut le voir dans Galates chapitre 6, verset 2. Parce que concrètement, nos frères et nos sœurs à côté de nous peuvent nous aider dans le temps que nous vivons. Non pas simplement pour démontrer qu'il est supérieur ou qu'il est plus fervent que nous, mais dans un esprit d'amour, nous nous supportons les uns les autres. Prenons par exemple l'exemple des braises dans un feu. Lorsque vous avez un feu, lorsque vous voyez que le bois un peu se décompose et des braises, quand tous ensemble, il y a une chaleur. Mais si vous prenez une braise et si vous la sortez du feu, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, elle va petit à petit se refroidir. Et à un moment donné, vous allez voir qu'elle va prendre même dans les bras, dans les mains, parce qu'elle sera plus chaude. Elle va comme s'éteindre. Et lorsque vous prenez cette braise et vous la remettez dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Cette braise revient, rallume, continue à brûler. Martin Luther a dit, « Chez moi, dans ma maison, il n'y a ni chaleur, ni vigueur, mais dans l'église, lorsque la multitude est rassemblée, un feu s'allume dans mon cœur et il se fraye en chemin. » Amen. Lorsque la multitude se rassemble, un feu s'allume dans mon cœur et il se fraye en chemin. Voilà pourquoi de l'importance comme le feu, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on se supporte, on peut rester fervent, on peut rester passionné pour le Seigneur. Un autre point qui est aussi important, nous protéger de l'ennemi de Satan. Ça, c'est un vrai point et une réalité. Lorsque nous sommes seuls, on est plus vulnérable à être attaqué. On connaît ce texte qui dit en Pierre chapitre 5, verset 8, en Pierre chapitre 5, verset 8, qui dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Lorsqu'un lion veut attaquer une proie, il va choisir celui qui est le plus faible ou celui qui est un peu à côté du troupeau. Parce qu'il sait que s'il attaque quelqu'un dans le troupeau va se retourner et il va protéger. Ils vont se défendre et ils risquent de ne pas être capables de continuer de pouvoir aller vers cette proie. Satan ne peut pas travailler à l'intérieur de l'Église de la même manière qu'il ne peut dans le monde. Lorsque l'Église se rassemble, lorsque la présence de Dieu est là, l'ennemi ne peut pas être là. L'ennemi ne peut pas commencer à distraire les gens. L'ennemi ne peut pas commencer à décourager parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu travaille en nous. Mais l'ennemi, nous savons qu'il nous attend à la porte de l'Église. Parce qu'il veut tout de suite enlever cette ferveur, il veut tout enlever cette passion, tout ce qu'on a reçu pour progresser, il veut l'enlever pour que nous puissions nous refroidir, pour que nous puissions passer à autre chose. Alors pourquoi que Satan ne peut pas travailler à l'intérieur de l'Église de la même manière que dans le monde? Il y a deux raisons. Premièrement, comme nous l'avons noté justement, en dehors de l'Église, nous sommes plus vulnérables aux mensonges de l'ennemi dans notre culture. Lorsque nous sommes seuls chez nous, on est beaucoup plus sensible peut-être à ce que l'ennemi nous chuchote dans l'oreille, peut-être aux mensonges, parce qu'on est seul, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on se pose des questions. Mais deuxièmement, l'Église est l'endroit où Dieu habite. Éphésiens chapitre 2, verset 22, il dit « Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Si nous sommes le temple de Dieu, que l'Église est remplie de la présence de Dieu, alors l'ennemi ne peut pas se tenir. Être dans la communion d'une Église locale nous offre une sorte de protection contre Satan. L'Église est comme une sorte de refuge contre le diable. Ça ne signifie pas que Satan ne peut pas attaquer les individus qui font partie d'une Église locale. Mais ça signifie qu'il ne peut pas les posséder ou les détruire autant qu'il peut s'ils sont séparés de l'Église. De même, justement, Dieu a conçu l'Église pour qu'elle soit ce lieu habitable où les chrétiens vont se réunir, vont pouvoir vivre, s'épanouir. Mais quitter la protection de l'Église saine et on entre dans un territoire qui peut être spirituellement hostile avec l'ennemi qui nous attend. Et le dernier point que je voudrais partager ce matin, la synergie. Alors, ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas forcément beaucoup, mais voici ce que dit un peu le mot synergie. Mise en commun de plusieurs actions concourant à un effet unique et aboutissant à une économie de moyens. Donc la synergie dans l'Église, c'est le fait d'être ensemble et qu'on collabore ensemble pour le bien de chacun et de l'Église. J'ai vu cette définition de la synergie dans un milieu chrétien, dans un article, et voici ce qu'il disait. La synergie, c'est ce merveilleux phénomène qui survient lorsque les personnes travaillent ensemble en bonne harmonie et qu'ils produisent et atteignent des résultats largement supérieurs à ce qu'ils auraient pu accomplir s'ils avaient agi séparément. La synergie, c'est l'effort collectif que produit un effet multiplicateur. Et on le voit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 et 10, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 et 10, qui dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » Lorsqu'on se regroupe dans l'Église, on pourra accomplir beaucoup plus de choses que dans nos efforts individuels, en raison justement du principe de la synergie. On pourra avoir beaucoup plus d'impact en tant que corps que seul chacun. Et lorsque vous augmentez le nombre de membres engagés et actifs dans l'Église, la quantité de ministères qui peut être accompli à l'intérieur et même à l'extérieur de l'Église gagne de façon exponentielle. Voilà l'effet de la synergie dans l'Église. Elle produit un effet qui, justement, va beaucoup plus avoir d'impact que si les personnes travaillaient chacun eux-mêmes de leur côté. Mais c'est vrai aussi pour le manque de synergie dans l'Église. Voici ce qu'il disait dans le même article par rapport au manque de synergie. Il dit « Les gens travaillent sans efficacité et sans efficience par rapport au but qu'ils visent collectivement. Ils sont plus centrés sur l'atteinte de leurs propres objectifs que de ceux de l'équipe. Pour utiliser une autre expression, disons qu'ils parfois échouent du coude. Pour toutes sortes de raisons, il y a alors gaspillage d'énergie et de créativité dans des frictions improductives, sans faire profiter les autres du plein potentiel de ces dons que nous avons les uns envers les autres. Voilà ce que c'est l'Église. Lorsque justement, tous ensemble, nous sommes réunis, lorsque nous travaillons, chacun dans les dons que le Seigneur lui donne, mais en travaillant tous ensemble dans le même but, il y a quelque chose qui est en train de se développer beaucoup plus que si nous sommes chacun de nous individuels. Le fait d'être ensemble, unis sous la direction de notre Seigneur, fait que l'Esprit de Dieu peut vraiment agir avec force, avec puissance, permet de faire des choses au-delà même de ce qu'on est capable de faire. Alors pour terminer, reprenons ces différents points énumérés. Est-ce qu'il y a peut-être un point particulièrement où vous sentez que le Saint-Esprit peut-être vous montre qu'il y a encore du travail à faire de votre part vers l'Église? Est-ce qu'il y a un point que vous sentez que vous êtes plus faible, que peut-être que vous n'arrivez pas à vivre avec les bienfaits de l'Église, que vous avez besoin de peut-être prendre en considération beaucoup plus de la valeur de l'Église, de ce que ce point peut vous aider à mieux agir avec l'Église. Aussi, de s'engager aussi à participer pour le bien des uns des autres, à défendre aussi l'Église devant toutes les attaques qu'elle subit actuellement, de prier pour que l'Église locale soit le reflet de la présence de Dieu et de son action justement dans la société qui nous entoure. Alors simplement, prenons quelques temps, avant de prendre la Sainte Cène, laissons le Saint-Esprit nous parler. Et regardons ces différents points. Dire, Seigneur, est-ce qu'il y a un de ces points que j'ai besoin peut-être de travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces points que je dois besoin de peut-être mettre à tes pieds à la croix lorsque je vais prendre cette Sainte Cène qui nous rappelle de tout ce que tu as fait sur la croix? Il est venu Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous pardonner. Est-ce qu'il y a un de ces points que j'ai besoin de demander pardon parce que peut-être j'ai négligé, peut-être j'ai mis de côté? Est-ce qu'il y a un point peut-être aussi que Dieu vous montre pour l'Église Carrefour de Saint-Henri, qu'on a besoin de travailler, qu'on a besoin peut-être de mettre en avant dans ces prochains temps? Nous voulons rester à l'écoute de Dieu. Nous voulons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire dans cette année 2023, dans la suite. Et nous voulons être disponibles de pouvoir agir selon ce que Dieu nous demande, selon ce que Dieu nous parle aussi à travers les uns et les autres. Maintenant, nous avons vu l'importance de l'Église, l'importance que nous sommes, lorsque nous sommes ensemble, de ce que nous pouvons faire, de comment agir. Et nous sommes invités ce matin à venir prendre ces éléments pour nous rappeler tout ce que Jésus a fait pour nous. Lui, il est mort pour nous donner la vie. Il est mort pour permettre que l'Église puisse se rassembler ensemble, que nous puissions ensemble être ce corps. Lui, il est le chef, il est la tête, nous sommes le corps. Chacun de nous, nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Mais il a dit à ses disciples, allez parcourir le monde entier, faites des disciples. Nous sommes ses disciples si nous écoutons ce que le Seigneur nous dit. Si nous regardons la parole de Dieu, sa volonté, que nous agissons dans la vérité. Et il désire aussi que l'Église locale puisse rayonner de cette paix, de cette joie, de cette lumière vers les autres. Alors que nous puissions prendre ce repas, se rappelle de ce que Jésus a fait pour demander pardon encore. Pardon à notre Seigneur. Peut-être un manque de ferveur, peut-être de se laisser tromper par l'ennemi. Peut-être que un manque de croissance spirituelle parce qu'on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps pour le Seigneur. peut-être qu'on se laisse tromper par, les mensonges de la société. Et restons dans cette attitude de prière, de confession, de demande que Dieu puisse nous encourager. Dire Seigneur, oui, je veux être fervent, je veux être passionné pour toi. Aujourd'hui, je m'incline devant ton trône, je reconnais ta majesté, je reconnais que j'ai besoin encore plus de toi, j'ai besoin encore plus de goûter à ta présence en moi, à que ton esprit puisse faire un travail de profondeur, pas juste le dimanche, pas juste quand je suis avec d'autres frères et sœurs chrétiens. Et à tout moment, là où je te représente dans mon travail, auprès de mes amis, dans mon voisinage, que je sois ce sel, que je sois cette lumière qui resplendit. Donc on encourage aussi les ados, vous pouvez le prendre parce que vous connaissez ce que veut dire justement la Sainte Cène, ce rappel qu'à travers ce pain, à travers cette coupe, tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Qu'aujourd'hui continue de nous pardonner, de nous façonner, pour que nous puissions être un témoignage aussi. Alors écoutons cette invitation à venir devant lui, cette confession. Dieu Tout-Puissant, Père notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de notre vie passée. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regrettons profondément d'avoir mal agi, d'avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard pour ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de servir et de te plaire en nouveauté de vie, en t'honorant et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, par amour, nous a donné ton Fils unique Jésus-Christ pour souffrir la mort à la croix pour notre rachat. Ton Fils qui, par son sacrifice, s'est offert une fois pour toutes, a accompli une expiation suffisante, parfaite et totale pour les péchés du monde entier. Nous venons maintenant à ta table, par obéissance à ton Fils Jésus-Christ, qui, dans son saint évangile, nous ordonne de commémorer de façon perpétuelle sa mort précieuse jusqu'à son retour. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit en donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en Alors Seigneur, on te remercie pour ce temps que tu nous as permis d'être ensemble. On te remercie parce qu'en toi, nous avons la vie. Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, l'importance de l'Église, le corps du Christ, Seigneur, l'importance d'être réunis ensemble, de pouvoir continuer d'avancer, de progresser. Seigneur, permets qu'en cours de cette semaine, nous puissions, dans les points que nous avons vus, pouvoir grandir, progresser pour ta seule gloire, afin que nous puissions être une Église saine, une Église, Seigneur, qui répond à toi, à ta volonté, qui agit, qui est une lumière, Seigneur, autour. Alors je te prie de bénir chacun de nous, que ce soit ici, en présentiel, que ce soit sur Zoom, que ton nom, que ta grâce soit sur eux et que vraiment tu puisses les encourager, nous encourager les uns les autres à garder cette communion ensemble, de garder, Seigneur, cette force que ensemble nous pouvons faire de grandes choses. Par ton nom, puissant, nous en prier. Amen.
Amen. Amen.